réveil en première.
Sophie Moons vient de nous rejoindre dans le studio de Réveil en Première. Bonjour Sophie.
Bonjour Romain.
Comme chaque dimanche, on va parler de cuisine et de bons produits. Et alors aujourd'hui, vous vouliez faire un zoom sur une boisson matinale,
Évidemment, le café. Le café, la boisson du matin pour le Belge. Nous en consommons environ 5 kilos par an et par habitant.
C'est énorme.
La boisson préférée du Belge, bien avant le thé, bien que le thé soit au niveau mondial, ça je le concède, la boisson la plus consommée au monde. Mais c'est vrai que le Belge, c'est la traditionnelle petite tasse de kawa. Un petit peu d'histoire peut-être.
Oui, tout à fait.
Alors, les origines sont plus ou moins situées dans la région de Kaffa. On est en Éthiopie, où il aurait été découvert 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors très vite, le breuvage romain va gagner les villes sacrées de l'islam, comme la Mecque, Médine, et va quitter le milieu fermé des dirigeants religieux pour faire son apparition dans les maisons publiques de café.
Mmh.
C'est un breuvage qui va séduire toute la péninsule arabique, le Proche-Orient, l'Europe et bientôt le monde qui vont suivre cette tendance caféière. Alors il y a quand même quelques petites anecdotes assez étonnante. Vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, le café qui provenait des pays du Levant coûtait très très cher. Et il faisait l'objet, vous l'imaginez, de rudes convoitises. D'ailleurs, il a fallu préserver ce monopole. Vous savez ce qu'on faisait à l'époque ? Eh bien, tous les sacs étaient évidemment contrôlés et tous les grains de café étaient ébouillantés afin d'empêcher la germination et donc d'être cultivés ailleurs. C'était vraiment un trésor de guerre. Alors il faut attendre le 17e pour que quelques Hollandais parviennent à dérober quelques grains qu'ils ont replantés en Inde à Ceylan et puis dans l'île de Java. Et au 18e, ça c'est là que va commencer l'essor du café. C'est un représentant de la compagnie hollandaise des Indes orientales qui va offrir des caféiers à Louis XIV. Ils vont être acclimatés au jardin des apothicaires du roi, qui est actuellement le jardin des plantes à Paris. Et ces jeunes plants seront les ancêtres des premières plantations des colonies d'Amérique, notamment en Martinique, en Amérique latine, Brésil, Cuba, Puerto Rico, Mexique. C'est là que va s'étendre cette culture caféière. C'est passionnant, hein ?
C'est vraiment passionnant, ouais. Et alors aujourd'hui, où est-ce qu'il se cultive ce café et de quoi on parle exactement ?
Alors la culture du café, Romain, se pratique de part et d'autre de l'Équateur, sous un climat tropical. On est vraiment sur cette ceinture climatique. Alors on parle d'un arbuste qui peut atteindre 10 à 12 mètres de haut, du genre Coffea. Il comprend 73 espèces, mais seules deux sont commercialisées, le Coffea arabica et le Coffea canephora, autrement dit le Robusta. Alors, petite information au préalable, vous savez que le taux de caféine des arabica est beaucoup moins élevé que les Robusta, qui en plus ont le désavantage de procurer un petit goût amer, corsé. On dit qu'ils sont moins subtils, ces cafés en tasse. Il faut aussi savoir que l'arabica aujourd'hui représente 70% de la production mondiale. Alors il faut aussi savoir que les arabica de haute altitude sont les plus recherchés par les amateurs de grands cafés. Il faut savoir que plus la plantation se trouve en altitude, plus l'acidité des grains de café va être accentué. C'est cette même acidité qui va apporter la longueur en bouche et le développement aromatique. Ça, les spécialistes le savent. Alors, pour ce qui est du Robusta, 30% de la production mondiale, comme son nom l'indique, un arbre très vigoureux, plus résistant aux maladies, des récoltes beaucoup plus abondantes et beaucoup plus utilisées, vous l'imaginez, par l'industrie, évidemment. Petite chose encore, il faut savoir que l'arabica contient 44 chromosomes, le Robusta à la moitié, et c'est cette différence qui fait justement toute la différence au niveau de la richesse aromatique et des saveurs qu'un grain de café peut offrir. Effectivement, on recense près de 1000 composés aromatiques dans un café. C'est quand même incroyable.
Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que de l'arbre à la tasse, il y a toute une histoire de savoir-faire.
Et oui, alors évidemment, on peut parler de Robusta, d'arabica, en même temps, ça ne veut rien dire. Tout dépend évidemment du sol, de l'altitude de culture et évidemment de toute l'opération de cueillette, de fermentation, etc. Alors, pour la cueillette, on a évidemment la cueillette mécanique, industrielle, par des tracteurs qui cueillent avec des brosses toutes les petites cerises. Il n'y a évidemment aucune sélection. On prend tout ce qui vient, les cerises mûres, moins mûres. Bon, c'est évidemment les procédés qu'utilisent les industriels. Et puis, on a une cueillette manuelle qui s'appelle le picking. Et là, c'est une cueillette à la main. On ne sélectionne que les cerises bien mûres et on laisse les autres encore maturer sur l'arbuste. Ensuite, il y a donc ce qu'on va retirer, c'est une petite cerise. Et dans cette cerise, Romain, il y a deux petits grains de café.
En fait,
il va falloir récolter ce grain de café. Et donc là, à nouveau, il y a deux procédés. Il y a ce qu'on appelle la méthode humide. Donc là, les cerises vont être plongées dans des bains d'eau. Il va y avoir une étape de fermentation, de flottaison, de dépulpage. Donc c'est un procédé long, lent, coûteux, mais qui préserve toutes les qualités organoleptiques du grain de café. Et puis, on a une méthode sèche qui est la plus courante, la plus utilisée par l'industrie. Là, on fait sécher les cerises au soleil ou dans des fours, et puis on les brise pour en extraire les deux grains. C'est un procédé évidemment beaucoup plus rapide, mais qui entraîne une perte d'arôme beaucoup plus importante. Mais effectivement, au niveau de l'industrie, il faut aller vite, donc on ne s'embarrasse pas de ces petits détails. Donc effectivement, pour les cafés bas de gamme de supermarché, on est forcément sur la méthode sèche. Et puis effectivement,
c'est là qu'arrive l'opération de torréfaction.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce grain de café, au départ, il est bien vert. Moi, je les ai vus. C'est assez étonnant. Il n'y a pas beaucoup d'odeur qui s'en dégage. Et donc la torréfaction, c'est une opération qui va permettre, qui est obligatoire, qui va en fait chauffer ce fameux grain. C'est cette opération qui va permettre au grain de libérer tous ses arômes. Alors, vous l'imaginez, là encore, différentes méthodes. On peut chauffer le grain de manière traditionnelle, 20 minutes à environ 200 degrés, beaucoup plus rapide à 250 degrés, ou alors une torréfaction dite flash. Là, en quelques secondes, 1 minute 30, vous avez un café torréfié. Vous imaginez qu'à nouveau là, on n'a pas affaire aux mêmes méthodes. Moi, j'ai été voir le torréfacteur Jean-Jacques Lauze et Sylvie Lauze, ils sont à Feluy. J'ai pu découvrir comment se passait une torréfaction artisanale. C'est juste magique. Vous avez une odeur qui flotte dans cet atelier absolument magnifique. Et vous avez là toute une approche différente qui permet de préserver toutes les qualités du grain. Ensuite, tout l'art du torréfacteur, c'est l'art de l'assemblage. Il faut assembler, un petit peu comme dans le vin d'ailleurs. Ouais. Vous avez ici, on m'a présenté un blend 100% arabica de grains de Papouasie, de Nouvelle-Guinée, du Guatemala, du Costa Rica. Et c'est cet assemblage qui fait qu'on a affaire à un moment à des très grands crus. Donc effectivement, c'est juste magique. Donc à nouveau, en tant que consommateur, renseignons-nous. Alors on a les cafés qu'on a en vente en supermarché, etc. Mais il y a d'autres cafés proposés par des spécialistes. Ouais. Et là, vous entrez dans une autre dimension, un peu comme les grands vins aussi, où on parle de grands crus, de terroirs, où on parle aussi d'hommes. C'est surtout ça qui est important, c'est que le café, c'est une histoire d'hommes et de savoir-faire, et on l'oublie un petit peu trop souvent.
Mais l'histoire est intéressante en tout cas.
Voilà, donc il n'y a plus qu'à à déguster. Vous avez... Il y a juste un petit truc, Jacques Lauze, qui m'a accueilli dans son atelier, me disait juste que la meilleure manière de déguster un café, d'ailleurs, c'était de le moudre maison. D'accord. Donc il faut acheter un petit moulin, ça ne coûte pas cher, il y a vraiment toutes les gammes de prix. Et puis vous le percolez directement, et là, vous avez tous les arômes qui sont préservés, qui donnent juste un vrai plaisir au palais. Les capsules, bof, bon, c'est pratique, c'est trendy, c'est vrai que c'est pratique, mais c'est pas là que vous allez avoir les grandes émotions caféières. Ouais. Donc, allez-y, tentez l'aventure, allez acheter aussi des petites machines à expresso pour faire un bon petit expresso cet après-midi après une belle balade au bois.
Ouais, c'est ça, je sais ce que je vais faire dans une vingtaine de minutes.
Et mon café, il est où là? Il est froid?
Il arrive.
Non, ça va pas du tout. Bon, allez, je vais aller au mess alors.
Merci beaucoup Sophie d'être passée
café
nous voir ce matin.
Pour moi.
Et à la semaine prochaine.
Jusqu'à 8h.
Réveil en première. Romain de Troyes sur la première.